Nous allons recevoir maintenant notre cinquième conférencier, Dr. Bernard Lemieux, qui est hémato-oncologue au CHUM à l'hôpital Notre-Dame, responsable de l'équipe des tumeurs hématologiques et responsable de la clinique des syndromes lympho-prolifératifs au CHUM. L'optimisation des soins aux personnes atteintes d'un lymphome, l'expérience d'une équipe interdisciplinaire. C'est à vous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Aux organisateurs de me donner l'opportunité de vous parler de ce sujet qui, a priori, je peux vous dire, quand on m'en a pas imposé, mais on l'a suggéré gentiment, m'apparaissait un peu ardu. On s'entend qu'on s'éloigne beaucoup, beaucoup des gènes puis qu'on va parler un petit peu plus des personnes ici. Deuxième chose que je me suis demandé, c'est... D'habitude, on présente 45 minutes. Là, on me donnait 20 minutes, mais je me disais, pourquoi 20 minutes? Dans le fond, 5 minutes pour comprendre qu'il faut travailler en équipe, c'est bien, bien, bien suffisant. Donc, 20 minutes, je me disais, va falloir que je trouve du remplissage un petit peu. Donc, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Puis, on va insister sur le fait de l'optimisation.
Optimisation.
Oh, c'est dur. Donc, l'amélioration des soins. Et on va se rendre compte que, dans le fond, il y a du travail qui reste à faire.
Le truc de droite, il faut un petit peu viser ça.
Ouais. OK. Donc, ça, c'est le modèle classique de ce qui est la relation patient-médecin. Ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire, il y a un patient, il y a un médecin, il se rencontre, il y a une problématique, puis on essaie de résoudre la problématique. C'est un modèle qui est simple. Mais qui, malheureusement, ne correspond pas à la réalité quand on traite des lymphomes, quand on traite des cancers.
Bien d'autres choses.
J'aime bien citer l'annonce, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce à la télévision là, de Cancer Québec, la personne qui reçoit un diagnostic, puis elle est poussée par 20 pieds en arrière. Je pense que ça correspond plus à la chose de penser que tout peut se régler avec deux petits cercles comme ça, c'est un petit peu naïf. Donc, pourquoi ce modèle-là est dépassé et pourquoi ça s'applique difficilement à ce qu'on fait, ce que je fais sur une base quotidienne? Je pense que la nature de la maladie qu'on traite n'est clairement pas adaptée pour ça. Si vous allez à l'urgence, vous êtes foulé une cheville, on vous fait des soins, vous retournez à la maison, c'est fini, on ne s'attend pas à autre chose. Quand on rentre dans un bureau puis on se fait annoncer qu'on a un lymphome, quel qu'il soit, c'est pas aussi simple que ça. C'est clair que la complexité des pathologies fait aussi qu'une personne, c'est pas suffisant pour traiter souvent un seul patient. La maladie elle-même est compliquée et avec tout le savoir qui se développe, je pense que ça devient compliqué pour une seule personne d'arriver à ses fins. Complexité dans les traitements aussi. De plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a pas une alternative de traitement. On souhaite qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois. Et ça ne dépend pas nécessairement juste d'une modalité thérapeutique. Puis ça, on va y revenir. Finalement, la spécialisation du travail. moi, dans mon travail à l'hôpital Notre-Dame, je suis oncologue, mais je traite principalement des lymphomes. Donc, la notion là, de un docteur, une maladie, de plus en plus. Et je pense que ça va de fait de la nature de la maladie, de la complexité. Donc, de penser qu'on va pouvoir tout régler, encore une fois, avec une seule personne, c'est un peu naïf. Finalement, le concept de ce que je vais appeler le patient global, on traite une maladie, mais on traite une personne aussi. Et le patient, la personne, ne se résume pas simplement juste sa maladie. Puis, en ce sens-là, je pense que le médecin, peut-être pas juste la personne qui est la plus appropriée pour traiter tout le patient dans sa globalité. Donc, depuis, je vous dirais, environ 5 ans, peut-être un petit peu plus, une dizaine d'années, le ministère nous demande de travailler dans un cadre, la direction de lutte contre le cancer, qui a mis de l'avant le principe d'interdisciplinarité. La première chose que je me suis arrêté, c'est qu'est-ce qui est la différence entre multidisciplinarité et interdisciplinarité? Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Donc, le concept de multidisciplinarité, c'est simplement le fait qu'on a accès à différents professionnels qui chacun vont faire une évaluation et chacun vont soumettre une réponse ou un plan. Alors que, mais ces plans-là sont individuels et fonction de chacun des professionnels. Il n'y a pas cette notion d'inter, ou c'est-à-dire de travail en communauté, collectif. Donc, je pense que l'interdisciplinarité est vraiment ce vers quoi on doit tendre, c'est-à-dire c'est toute intervention résultant de l'action concertée. J'insiste sur le fait de la concertation. On ne fait plus juste affaire à un médecin, on fait affaire à une équipe, à différents professionnels. Donc, à une action concertée d'une équipe multidisciplinaire. Comment ça fonctionne? L'évaluation, la synthèse commune du savoir, c'est-à-dire moi, je fais une entrevue, une infirmière pivot peut faire une entrevue, un psychologue peut faire une entrevue. C'est la sommation de ces entrevues-là qui vont permettre de mieux définir le patient. Il y a une communication nécessairement qui doit être faite entre les différents intervenants afin de pouvoir arriver au but commun. Finalement, une fois que toutes ces personnes-là, tous ces gens ont rencontré les patients, il y a un objectif commun qui n'est pas juste le plan thérapeutique médical, mais qui est le plan thérapeutique global du patient. Et ce plan-là doit être concerté et partagé, c'est-à-dire un seul but pour tout le monde, et tout doit être mis en place pour que le résultat soit commun. Donc, qu'est-ce qui sont les facteurs influençant l'interdisciplinarité? Je pense que les caractéristiques de l'environnement de soins. On ne peut pas imaginer que l'interdisciplinarité va être la même dans un hôpital de région à Cowansville versus, mettons, l'hôpital de McGill. Les caractéristiques des patients, dépendamment qui vous êtes, dépendamment ce que vous êtes au moment où vous êtes malade, c'est sûr que ça va influencer les besoins d'interdisciplinarité. Un patient de 70 ans n'aura pas nécessairement les mêmes besoins d'un point de vue social, d'un point de vue travail, d'un point de vue ami, qu'un patient qui en a 25. Et finalement, les caractéristiques des professionnels. Qu'est-ce qui est disponible dans le centre hospitalier? Qu'est-ce qui va permettre d'aider le patient? Et c'est clair que le travail en interdisciplinarité va dépendre de la modulation de ces trois facteurs. Qu'est-ce que ça a, l'interdisciplinarité, pour le patient? Qu'est-ce qui l'effet? Qu'est-ce qui est l'avantage de tout ça? Je pense qu'il y a une plus grande accessibilité aux ressources. Si vous avez une équipe, si on demande, il est clair qu'on va recevoir des soins qui vont être différents, qui vont être plus globaux. L'amélioration du statut fonctionnel. Les études ont clairement montré que quand on travaille en équipe interdisciplinaire, le patient va être mieux, les résultats vont être mieux, pas nécessairement juste d'un point de vue médical, mais d'un point de vue de la vie en général. Il y a un meilleur contrôle des symptômes. Pourquoi? Parce que quand vous avez, comme certains de mes patients ont, 10 minutes dans un bureau pour régler l'ensemble de tous vos problèmes, bien, quand on a plusieurs intervenants, il est clair qu'à ce moment-là, on est capable de gérer plus de problèmes, d'autant plus quand tous ces intervenants-là finissent par se rencontrer à un moment donné pour discuter des problématiques. Et finalement, il y a une meilleure perception de la qualité des soins reçus. C'est clair, si on rencontre plusieurs gens, si on est capable d'obtenir ce dont on cherche au moment de la prise en charge de notre condition, on va avoir une meilleure perception, c'est ça, de ce qu'on a reçu comme soin. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant qu'est-ce que sont les effets avantageux pour l'équipe et l'institution? C'est clair que si, comme médecin, comme équipe, le patient est mieux, à ce moment-là, vous êtes plus satisfait. C'est supposé être la raison pour laquelle on travaille. Il y a une plus grande efficacité. Si on est capable de discuter en équipe et d'obtenir un résultat qui est meilleur, il est clair qu'on va être plus heureux. Les études ont aussi montré qu'on avait une meilleure utilisation des ressources. Diminution de l'utilisation des services d'urgence. Si vous avez plusieurs personnes qui rencontrent un patient, à un moment donné, on va pouvoir voir venir les problèmes, on va pouvoir les résoudre avant qu'une crise se mette en place. Et finalement, on va pouvoir éviter toutes les rencontres, que je dirais, d'urgence, là, où il faut régler un problème à la minute. Malheureusement, ça n'a pas juste des effets positifs, l'interdisciplinarité. On peut s'entendre que si on a des équipes à 22 personnes, puis qu'il n'y a plus juste un chef, mais des chefs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de conflits personnels. Mais ça, je vous dirais que c'est le problème de l'équipe, ce n'est pas le problème du patient. Puis ça ne devrait jamais transparaître là, dans la prise en charge du patient. Donc, qu'est-ce qui est l'interdisciplinarité dans mon centre? Habituellement, on fait référence à ce qu'on appelle l'équipe interdisciplinaire, mais je vais vous expliquer deux choses qui sont faites, je vous dirais, en interdisciplinarité qui permettent l'amélioration du traitement des patients. La première, ce qu'on appelle le comité des tumeurs, puis finalement l'équipe interdisciplinaire comme telle. Ce qui est peu ou pas connu des patients, c'est qu'on souvent, il y a une décision thérapeutique qui est faite avec le médecin en one-on-one quand on est dans le bureau. Mais avec la complexité des traitements, avec la complexité des maladies, souvent on a besoin de l'expertise de plusieurs professionnels médicaux pour arriver à une réponse. Donc, chez nous, à l'hôpital Notre-Dame, une fois toutes les deux semaines, les cas plus compliqués, les cas pour lesquels le traitement n'est pas nécessairement d'emblée facile, les cas sont discutés en réunion collective ou les différents intervenants de la prise en charge médicale, oncologique, ici je parle bien médicale, se rencontrent puis essayent de déterminer ce qu'on va appeler le plan thérapeutique idéal, en sachant que ça ne correspond pas nécessairement à ce qui est le plan qu'on voudrait pour tout le monde. Il faut être capable qu'il soit adapté pour le patient selon ses comorbidités, le fait d'être diabétique, le fait d'être schizophrène, le fait d'être autre chose. Donc, il est important dans ces comités-là qu'on arrive à une réponse qui va être plus adaptée au patient. Puis, il y a de l'interdisciplinarité dans la mesure où ce n'est plus juste la personne qui donne la chimiothérapie qui parle, mais c'est le radio-oncologue, le pharmacien qui pourra avoir une opinion éventuelle. Quel est l'avantage de ces comités? Mais c'est clair qu'il y a une meilleure planification des traitements. Donc, si meilleure planification, meilleure gérance des effets secondaires et probablement un traitement qui est plus optimal pour le patient. Il y a une question d'uniformisation des traitements aussi. Si vous êtes des personnes autour d'une table à discuter d'un cas, on a moins de chances d'errer puis d'arriver avec un traitement qui ne sera pas nécessairement approprié pour le patient. Puis il y a clairement la question de mise en commun de l'expertise. Il faut imaginer, je donne un peu l'exemple, imaginez-vous encore une fois la personne qui travaille toute seule dans son bureau, on va choisir encore Coinsville, et qui voit un cas une fois par année, alors que dans un centre où on peut discuter, où des équipes vont discuter, puis il y a des réseaux qui se forment actuellement, il y a plus de chances qu'on puisse arriver à un traitement qui va être adapté aux patients et qui va être meilleur. Donc, je pense que ce travail en équipe, en comité, ce réseautage permet d'obtenir des opinions thérapeutiques qui sont définitivement meilleures. Voici un peu ce que moi j'appelle l'équipe interdisciplinaire, ce à quoi, vers quoi on doit tendre. J'ai volontairement diminué le médecin parce que je pense que c'est juste un des intervenants, puis probablement pas sur ce que je vais vous discuter, l'intervenant primordial. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un patient, mais il y a aussi une famille, un travail, des amis qui vont avoir un impact sur ce qu'est le patient, ce qu'il va vivre ou ce qu'il va vivre dans les prochains temps. Et vous avez différents intervenants, différents professionnels pour lesquels on va pouvoir avoir accès dépendamment des besoins du patient. Au milieu, j'ai mis ce qu'on appelle l'infirmière pivot, là, qui est une ressource disponible dans la majorité des centres, pas nécessairement dans tous les centres. Malheureusement, on n'en a pas autant qu'on en veut. C'est une espèce de super infirmière qui permet d'être le cœur arrière de l'équipe qui permet de mettre tous les gens ensemble pour essayer là, d'arriver à nos fins. Ça prend un chef, puis souvent dans nos équipes actuellement, l'infirmière pivot est ce chef-là. Donc, c'est un modèle où, selon les besoins du patient, on va choisir les professionnels dont on a besoin pour arriver encore une fois à nos fins. Puis ça nous permet de traiter le patient dans sa globalité. Est-ce que c'est réellement nécessaire? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un patient que j'ai vu récemment. Vous allez trouver que j'exagère, mais vous allez vous rendre compte que je n'exagère pas. Donc, c'est toujours la faute aux résidents quand on travaille dans un centre universitaire. Donc, voici l'histoire en 25 minutes que le résident m'a racontée. C'est le résumé. Donc, j'ai rencontré Marie, qui a 25 ans, qui a un lymphome de Hodgkin, qui va avoir besoin d'une chimiothérapie. La chimiothérapie est classique de l'ABVD. Puis, heureusement pour elle, elle a 70 % de chances de guérir. Donc, ça, c'est le résultat de, on va dire, 15-20 minutes de rencontre avec le patient. On pourrait appliquer ça, mais malheureusement pas. C'est de sous-estimer un peu l'ensemble de la problématique parce que Marie, c'est aussi une mère célibataire qui a un enfant qui a 3 ans, qui travaille comme gérante dans un magasin et dont la famille demeure à Rouen. Donc, le réseau social est très pauvre, sinon quasi inexistant. J'aurais pu vous raconter aussi l'histoire d'un monsieur de 70 ans dont la femme est Alzheimer, qui reste dans un deuxième étage au milieu du centre-ville, puis vous auriez tout aussi pu dire que je vous raconte des histoires. Mais sachez que ma réalité à moi, je travaille à l'hôpital Notre-Dame, donc dans le CSS Jeanne-Mance, donc ma région qu'on couvre, c'est celle qui est autour du parc La Fontaine, qui est au sud de la rue Sherbrooke. Donc c'est une problématique qui n'est pas simple. 41% de familles monoparentales. 52% des ménages sont composés d'une seule personne, donc de l'isolement. 22% d'immigrants. Il y a un quart à un cinquième de notre population qui fait moins de 10 000 $ par année. Si vous prenez juste le CLSC des Faubourgs, celui qui est plus au sud de Sherbrooke, vous allez voir, c'est là où on rencontre l'itinérance, nos amis Squeegee, ceux qui restent au centre-ville, la drogue, le quartier gay, le VIH. Donc, c'est une problématique qui est particulière. 9% de la population de mon CSS a déjà consulté pour des problèmes de santé mentale. Et finalement, il y a l'itinérance. Donc, ça correspond à ma réalité. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, si j'applique la chimiothérapie, je ne me pose pas de questions. On oublie une grosse partie du traitement de la personne. Et j'aimerais juste pour vous montrer, ici, je vous ai montré la mortalité à travers Montréal pour différentes maladies. Si vous prenez les tumeurs malignes, on meurt plus dans mon centre que partout ailleurs dans Montréal, à cause justement des indices sociaux qui sont là. Donc, d'oublier ces indices sociaux-là, ce n'est pas prendre en charge le patient de façon adéquate. Donc, qu'est-ce que sont les enjeux pour Marie? C'est être capable de recevoir son traitement. Ce n'est pas aussi simple que dire « je viens à l'hôpital, je reçois un traitement intraveineux, je retourne à la maison ». C'est d'être capable de survivre. Ici, pas juste survivre dans le fait de « je vais guérir », mais survivre dans le fait de vivre le traitement. S'occuper de son enfant, puis certainement être capable de maintenir un certain niveau de vie qui va passer par le travail. Je mets au défi n'importe quel docteur qui sont ici de me dire combien de semaines sur l'aide sociale vous avez le droit quand vous avez de la chimiothérapie. La majorité, on ne pourra pas vous le dire. C'est pour ça qu'on a besoin d'équipes multidisciplinaires. Puis finalement, l'objectif ultime, c'est vraiment de guérir. Donc, le modèle interdisciplinaire, c'est un modèle qui nous permet de prendre ce qu'on a besoin. C'est un modèle qui se module, puis selon les besoins du patient, on va être capable ici de gérer selon le patient a réellement besoin. Donc, dans le cas de Marie ici, de penser travailler durant sa chimiothérapie, ça va être difficile. Elle va sûrement avoir besoin d'une travailleuse sociale, de son infirmière pivot, la gestion des médicaments avec le pharmacien, peut-être psychologue pour l'enfant qui va voir sa mère avec Pucheux. C'est toutes des choses qui, théoriquement, devraient être offertes à nos patients et qui ne le sont pas nécessairement actuellement. Donc, dépendamment, il faut savoir aussi que ces besoins-là vont évoluer. Ils vont évoluer à travers d'où vous vous trouvez dans votre trajectoire de soins. Quand on parle d'un lymphome de Hodgkin, habituellement, rapidement, on espère pouvoir sortir à la guérison. On espère que ce ne soit pas le décès. Mais il y a d'autres modèles dans les lymphomes, si vous prenez le lymphome folliculaire, où il y aura une suite de traitement-rémission. Donc, dépendamment d'où vous êtes, vous allez avoir une intensité de besoin qui va être différente. Et on espère que ça va finalement arriver à la guérison et non le décès. Le traitement n'est pas une fin en soi. L'autre exemple que je vais vous donner de l'importance de l'équipe interdisciplinaire, c'est qu'est-ce qui arrive en rémission depuis 2 ans, cette patiente-là. Le travail ne s'arrête pas là. Si vous prenez pour le lymphome de Hodgkin, des choses qui ne sont pas toujours sues, mais chez les gens qu'on va dire guéris, il y a 20 % de plus de fatigue qu'une personne normale. 37 % de problèmes de sexualité, pas juste de l'infertilité. 1/3 des patients vont présenter des troubles de mémoire assez sévères pour dire qu'ils doivent être reconsidérés le type de travail qu'ils font. 42 % vont avoir des problèmes lors du retour du travail. J'étais habitué de travailler 5 jours, maintenant je suis juste capable d'en travailler 4. 20 % vont divorcer, changer de partenaire durant le cours de leur traitement. Puis 50 % des patients avec de Hodgkin vont vous rapporter de l'anxiété et des symptômes dépressifs. Je vous mets encore au défi, je mets au défi mes collègues en 10 minutes, en 15 minutes, de mettre toutes ces choses-là en évidence lors d'une rencontre pour savoir, ou encore une fois, qu'est-ce qu'il a dans cette rencontre-là, le primordial, savoir y a-t-il encore ou il n'y a pas de la maladie. Donc, c'est là que vient l'importance de l'équipe. Ici, je vous parle de quelqu'un de guéri, le principe de survivance, qui est sûrement une des étapes les plus oubliées actuellement dans la prise en charge de nos patients. La majorité des docteurs vont donner congé après 5 ans. Alors qu'on sait que pour le Hodgkin, les problèmes arrivent souvent, peuvent arriver après 5 ans. On sait que la mortalité reliée au traitement augmente après la 5e année et c'est des choses qui ne sont pas nécessairement prises en charge de façon systématique. Il y a des modèles aux États-Unis, si vous avez des cliniques du survivant, on va pouvoir ajuster la prise en charge du patient en fonction d'où là, il est rendu dans sa démarche. La réinsertion du patient à la vie normale, puis le besoin interdisciplinarité est définitivement aussi présent dans cette étape du traitement. Donc, en conclusion, c'est court, 20 minutes, mais on se rend compte que c'est clair qu'il y a de l'optimisation à faire, il y a de l'amélioration à faire. Je pense que le travail en équipe interdisciplinaire est nécessaire et utile, mais je vais insister sur le fait qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de faire une prise en charge globale du patient dans tous les aspects, pas juste l'aspect médical. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer? Puis je vais terminer ça là-dessus. Je pense qu'il y a des améliorations à faire. Je pense qu'on doit avoir, on doit... se mettre de l'avant pour augmenter les ressources professionnelles en milieu hospitalier et en milieu non hospitalier. Dans ces CLSC, il faut être capable d'offrir aux patients des ressources qui vont être autres que celles médicales. Les comités des tumeurs permettent l'uniformisation des soins, une amélioration des résultats pour un traitement donné. Je pense qu'il doit avoir aussi un développement de programmes basés sur le patient dans sa globalité, puis qui intervient au moment d'où il est rendu dans sa trajectoire. Si on est un survivant, il faut adapter qu'est-ce qu'on va offrir comme ressources à ces gens-là. Puis finalement, il faut tout prendre en considération le développement, une meilleure compréhension des nouveaux enjeux thérapeutiques. Je vais vous donner en comparaison, il y a 15 ans, le VIH, bien, on avait le VIH, on devenait SIDA, puis on mourait. De nos jours, c'est des gens qui vont vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les besoins ont changé. Un peu la même chose avec certaines formes de cancer. Vous avez un lymphome folliculaire, on avait une survie médiane qui pouvait être 7 ans auparavant, on est rendu à 12 ans, 24 ans. Donc, c'est rendu des maladies chroniques avec des problématiques qui vont être différentes. Puis, il faut être à même d'ajuster nos interventions en fonction de ces changements-là. Sur ce, je pense que ça complète ma présentation.
Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On a 5 minutes facilement. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il doit y avoir des questions dans cette salle ou des appréciations ou des commentaires. Oui, madame, allez-y. Nommez-vous. Oui.
Moi, j'aimerais, je travaille à CERCAN, l'organisme, on fait les transports pour les patients ici à Montréal. On en a beaucoup qui vont chez vous à Notre-Dame. Je travaille souvent en concordance avec l'infirmière pivot, mais la plus grosse problématique chez les gens, souvent, c'est en plus de tout vivre ça, c'est leur insécurité financière. On sait que l'affectif puis le financier, ça va ensemble. Et moi, ça me crève le cœur. Des fois, on les voyage pour rien parce que le 27$, là, ils sont souvent pas capables de le donner aller-retour. C'est des bénévoles, nous autres, qui font le transport. Et effectivement, c'est des problématiques. Moi, je pense qu'un patient, s'il n'avait pas à se soucier au moins des besoins de base en tant que tel pour être capable de recevoir ses traitements, bien, on aurait gagné beaucoup. Parce que je reviens toujours à la base. J'ai des patients même qui refusent de le payer. On le fait. Et quelque part, des fois, il y en a même qui vont dire « j'aime mieux mourir parce que je veux laisser de l'argent à ma famille aussi ». C'est une grosse problématique. Je ne sais pas ce que vous en dites, là. Moi, quelque part, je me disais si on pourrait avoir des fonds pour au moins assurer la sécurité de base de ces gens-là.
Il me semble, en effet.
Je pense que, le modèle que je vous ai présenté là, c'est un modèle qui est idéal. Je pense que si on avait un modèle sans limite de sous, probablement on serait capable de l'atteindre. Je pense qu'il faut être capable de... Je pense qu'on va devoir prioriser certaines choses, essayer de voir ce qu'on peut faire. Des fois, ce sont de petites choses qui vont permettre d'améliorer. Je vais vous donner comme exemple chez nous, il y a bien des patients qui payent leur stationnement pour recevoir leur traitement. Si vous venez 2 fois par semaine, vous avez de la misère à marcher du stationnement jusqu'à la salle de chimiothérapie, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que malheureusement, nos ressources ne sont pas illimitées, mais il y a sûrement des choses qui peuvent être faites pour améliorer simplement la qualité de vie du patient.
Et je pense que, madame, vous avez raison, dans la mesure où c'est sûr que ce n'est pas idéal, mais les banques alimentaires sauvent des vies et la santé de beaucoup d'enfants. De la même façon, quand vous dites qu'il faudrait peut-être avoir des fonds, il me semble que pour les gens qui vivent sur l'aide sociale notamment, ou les gens qui ont des familles et qui vivent avec moins de, je ne sais pas quoi, 20 000 piastres par année, ils devraient avoir un fonds qui leur permette.
L'aide sociale, chez nous, sont priorisées parce qu'on va chercher directement l'argent à l'aide sociale pour se payer, parce qu'on est un organisme communautaire. Donc, les gens à petit salaire sont encore plus
défavorisés.
Oui, surtout avec les pertes d'emploi et tout ça. Moi, j'ai eu un monsieur à un moment donné qui m'a appelé, il dit « Bon, bien là, ma femme, elle doit-tu continuer à travailler? Allez-vous la payer pour rester à la maison pour qu'elle prenne soin de moi? »
Oui. Oui, madame, c'est à vous. Merci.
Alors, je m'appelle Marjolaine, je suis infirmière en hémato-oncologie à l'Hôpital Général. J'aimerais savoir, vous avez parlé de la clinique du survivant, c'est pas un terme qui m'est familier. Est-ce que vous avez plus d'informations sur c'est quoi leur mandat?
Je peux dire que nous, on n'en a pas.
Oui, c'est
aux États-Unis. Malheureusement, comme on voudrait. En anglais, les gens vont faire référence au « survivorship ». C'est-à-dire que ben, c'est des gens, c'est ça. Normalement, bien des patients, après 5 ans, je donne congé, mais il y a des cliniques dans différents endroits aux États-Unis. Il y a des principes sur lesquels il y a des choses qui doivent être faites pour le survivant. Je vais vous donner un exemple. Je vous parlais d'une dame qui a un cancer, d'un Hodgkin qui a eu la radiothérapie, mais il y a des choses qui s'appliquent à cette dame-là pour prévenir certains cancers qui ne s'appliqueraient pas nécessairement à d'autres. Il faut traiter certaines maladies, certaines complications plus... de façon plus serrée. Donc, qu'est-ce que sont les objectifs? Je pense que c'est d'améliorer la survie, mais pas une fois que le traitement lui-même est passé, là, de gérer les complications, de gérer tous les problèmes sociaux qui sont dépendants de ça. Puis l'objectif de ces cliniques-là va dépendre un peu de ce que vous voulez en faire, mais je pense que déjà, d'être capable d'offrir un suivi spécialisé dans le contexte d'une guérison, je pense que c'est déjà intéressant. Je sais que nous autres, on n'en a pas. Je ne sais pas si Pierre, vous autres, ou Jewish, vous avez ce genre de clinique-là.
Vous avez une clinique de survivance, Monsieur Lanneville?
Des cliniques de survivants. Tu sais, le suivi à long terme, le survivorship. Nous autres, au Jewish, je ne sais pas si...
On les suit... on n'a pas de clinique spécifiquement pour ça. On n'a en réalité pas l'espace pour une journée de plus. D'ailleurs, les cliniques, habituellement, ce sont des maladies malignes hématologiques ensemble. On a quelques cliniques très spécialisées pour le myélome multiple, mais pour manque d'espace, souvent, des gens s'en sont vus ensemble. Je pense que de ce que tu parles, c'est l'idéal.
C'est ça.
Il est clair qu'on a quand même, aussi comme toi, de disponibilité de gens spécialisés en psychologie ou autre chose. Si les gens ont vraiment des problèmes d'adaptation par la suite, ils ont un suivi. Mais une clinique
des survivants comme tel. Ouais. Mais ce que je me demandais, docteur Lemieux, c'était est-ce que ces cliniques-là doivent être nécessairement reliées à un hôpital ou peut-être en lien avec la société civile, un organisme communautaire qui pourrait travailler avec l'hôpital?
Mais je pense qu'il y a une partie médicale qui est, je pense que médicale. Probablement, puis je ne l'ai pas mentionné dans ce que j'ai marqué là, mais il y a une implication du médecin de famille qui doit être faite ici.
Okay.
Probablement que le médecin de famille devrait mieux connaître tout ce qui a été fait dans le centre d'oncologie, mais ce n'est pas juste une question communautaire.
L'accompagnement.
Je pense qu'il y a une question aussi médicale reliée à ça, puis sociale.
Oui, je comprends. Allez-y.
La Fondation L'Infond Canada fait partie de la Coalition Priorité Cancer au Québec. On a une dame de Sercan qui parlait de ces problématiques. Je pense que pour supporter les équipes interdisciplinaires des hôpitaux, il faudra de plus en plus donner un meilleur support financier aux organismes volontaires en cancer qui pourraient vraiment faire jonction avec les équipes interdisciplinaires des hôpitaux. Ils sont sur le terrain, mais ils ont très peu de fonds. Ils se battent eux-mêmes pour leur survie. Dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ce sont les principaux partenaires de l'État. Tandis qu'ici, au Québec, il ne reçoit pratiquement aucun financement de l'État.
Je pense que c'est clair. Il faut être imaginatif. Je sais que nous autres, on sert de votre livre aux patients, qu'on obtient gratuitement. Merci beaucoup. mais c'est clair. Il faut avoir de l'imagination. Puis c'est par ça que ça va passer.
Chers amis, une dernière question, madame la massothérapeute Anne-Marie.
Oui. Écoutez, Monsieur Lemieux, vous avez parlé du psychologue qui faisait partie de votre équipe, le massothérapeute. On arrive présentement en accompagnant le cancer. Puis en étant avec Sercan, je réalise que quand les clients partent, ça leur fait du bien. On est conscient que ça descend le taux de cortisol, ça remonte le système immunitaire. Puis quand le monsieur qui est devant vous qui dit « Ben maintenant, il me reste juste à me suicider », j'en connais pas de psychologue qui va dire « Ah, ben moi, je vais vous soutenir. Est-ce que dans les hôpitaux, vous pourrez, comme monsieur disait, prendre tous ces organismes à but non lucratif, puis dire, ben nous, on pourrait vous affilier parce qu'on sait que vous existez. Dernièrement, on nous a dit, on a fait une grosse levée de fonds, on ne savait même pas que vous existiez. On est toutes dans notre petit creux, dans notre petit coin, en train de faire quelque chose, mais il n'y a pas personne qui nous implique parce qu'on n'est pas reconnu. Donc, moi, quand les gens me disent, ben moi, là, je vais me suicider, je fais comme, ben il y a peut-être d'autres alternatives. Avez-vous des gens autour de vous pour vous aider? Ben pas vraiment. Déjà, le peu que j'ai, si en plus je leur en mets plus sur les épaules, je vais les perdre, ceux-là. Alors, peut-être que les hôpitaux pourraient peut-être aussi voir, ne serait-ce que les psychologues. Ben moi, je vous dirais que je ne suis pas psychologue, mais je suis à l'écoute active, mais à un moment donné, j'ai une limite aussi.
Oui,
puis je me dis, il faudrait peut-être que les hôpitaux nous incluent pour nous envoyer du monde qui pourrait soutenir aussi les. En psychologie ou quoi que ce soit, ces gens-là?
Vous avez raison. Je pense qu'on ne peut pas, je veux dire, dans un monde idéal, encore une fois, je pense que tous les intervenants du réseau, et pas juste le réseau hospitalier, je pense que tous les intervenants seraient réunis. Encore une fois, il y a tous un but commun. C'est ça le principe de l'interdisciplinarité, c'est d'être capable de réunir tout le monde, d'arriver à un objectif commun.
Oui, allez-y. Bonjour, j'avais juste un commentaire. À l'hôpital général juif, on n'a pas de clinique de survivors, là. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait une présentation au groupe de médecine familiale pour leur expliquer que la plupart des patients d'Hodgkin, puis non-Hodgkin, surtout les jeunes, ils survivent leur traitement, puis leur expliquer c'était quoi leur rôle, leur rôle avant le traitement, pendant le traitement, puis après le traitement, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas vraiment de rôle, mais surtout après le traitement, là, ils n'ont aucune formation dans chimiothérapie, radiothérapie, les effets à long terme et tout ça. Puis je pense que eux sont très bien placés pour gérer tous les problèmes qu'on a à long terme, les problèmes d'hypothyroïdie, les problèmes de stress, qui ne vont plus à l'école si on peut intéresser la dépression et tout ça. Alors, de prendre ce groupe-là avec nous en partenariat, parce que nous, c'est sûr qu'on est un petit peu débordés là, de traitements actifs, alors d'avoir d'autres personnes avec nous, ça serait bien.
Mais je pense que vous avez tout à fait raison, Dr. Johnson. Je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un oncologue. Je pense qu'on sous-estime ce que le médecin de famille peut faire. Puis je pense qu'ils sont partie intégrante de l'équipe. Puis souvent, on les oublie.
You will be the last one, Mrs. Robson.
Okay, thank you. Okay. I just wanted to make a comment. I'm Sue from Lymphoma Foundation Canada, and I just wanted to say how much I enjoyed your talk. You covered a lot of areas that are not very often covered, and yet they should be on the top of the list because they are equally as important as treatment as far as I'm concerned. What I also wanted to say on a positive note is what I'm seeing and hearing, part of the solution is being able to form a lymphoma support, a lymphoma organization in the province of Quebec, because there are solutions. And right now it seems very daunting, but there are solutions to be able to meet the needs of the patient community. And I do feel it's part of our role. So any of the physicians or healthcare workers that are here, any of the patients that are here, please speak to us because we do want to make a difference and help solve these problems.
Merci. Merci beaucoup, Dr. Lemieux. Ça a été extrêmement apprécié.